Voici une question dont la réponse sera une aide précieuse pour tous les parents. Pourquoi devons-nous élever nos enfants dans la crainte de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse sage et salutaire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a tellement de bonnes questions pratiques pour nos vies dans le livre des Chroniques. Je suis certaine qu'on va apprendre de belles choses qu'on pourra appliquer dans nos vies aujourd'hui, suite aux questions que voici. Qu'est-ce qui se produit dans la vie de ceux qui sont fidèles à Dieu? Qu'est-ce qu'un croyant doit surveiller quand il a du succès? Est-ce qu'un croyant devrait appréhender la mort? Est-ce qu'une mauvaise expérience à cause d'un autre croyant est une bonne raison pour ne pas servir Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si important d'élever nos enfants dans la crainte de Dieu? Demeurez avec nous. Nos réponses sont toutes dans le grand livre de Dieu. Et le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible. Il est donc prêt à nous donner ce bel enseignement qui sera pratique pour chacune de nos vies. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir sa précieuse parole. Prions. Oh oui, Seigneur, ta parole est précieuse. Elle est douce à entendre. Et on est heureux de la mettre en pratique. On a besoin de ta force pour le faire. Et on a besoin que tu disposes nos cœurs pour qu'on puisse vraiment ne rien manquer de tout ton conseil aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Joas fit réparer la maison de l'Éternel. Cependant, après la mort du sacrificateur Jéhojada, qui l'a caché et élevé, il se détourna de Dieu. Il arrive que nous suivions parfois un homme autant que Dieu, et qu'une fois celui-ci parti, notre intérêt pour les choses de Dieu décline. Suis-je en train de suivre un homme plutôt que de suivre Dieu lui-même? Un prophète recommanda à Amatsia de s'appuyer sur Dieu pour vaincre Édom. Nous avons vu que c'est Dieu qui protège son peuple et son Église par sa grande puissance. Nous devons personnellement croire en lui. Cependant, Amatsia, dont le cœur n'était pas entier à Dieu, fit un mauvais choix et tomba dans l'orgueil et se tourna vers l'idolâtrie. Tout va mal dans un pays qui abandonne la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Dieu fait prospérer ceux qui lui sont fidèles. Après Amatsia, Ozias monta sur le trône et régna sur le peuple pendant 52 ans. Il fut un bon roi. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Chroniques, chapitre 26, versets 4 et 5. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Oui, chers amis, Dieu lui accorda des victoires militaires. Verset 6. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Ozias s'empara du territoire des Philistins, chers amis. Mais Dieu lui accorda encore davantage. Poursuivons notre lecture, cette fois les versets 8 à 10. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias était agriculteur et éleveur. Le territoire pris des Philistins offrait d'excellents pâturages. De plus, la vallée d'Esdrelon, du côté du Mont Carmel, était un excellent territoire agricole où les vergers abondaient. Versets 11 à 13. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jehiel et le commissaire Maaseja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Oui, chers amis, sous Ozias, le royaume fut une puissance militaire. Versets 14 et 15. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit puissant. C'est sous le règne de Josias qu'un ingénieur inventa la catapulte pour lancer de grosses pierres et des machines pouvant lancer des flèches à une grande distance. Nous avons tous notre talon d'Achille, notre point faible. Je m'explique, chers amis. Comme tous les rois, même les meilleurs, Ozias avait une faille dans son armure. Nous avons tous notre talon d'Achille, notre point faible. Oui, chers amis, il n'est pas rare que la pire chose qui puisse nous arriver soit le succès. Nous devenons enflés d'orgueil, et ce fut la cause de la chute du roi d'Ozias. Demandez-vous à Dieu de sonder votre cœur pour éviter de tomber dans certains pièges? Avez-vous déjà fait du psaume 139, les versets 23 et 24, votre prière personnelle? Écoutez ce texte. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelle requête! Es-tu prêt à demander à Dieu de venir voir ce qui se passe dans ton âme, dans ton cœur, tes sentiments et dans tes pensées? Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Voyez-vous, selon la loi de Dieu donnée à Moïse, seuls les sacrificateurs descendants d'Aaron avaient le droit de pénétrer dans le lieu saint pour brûler des parfums sur l'autel. Versets 17 et 18. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent: « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Oui, les sacrificateurs pouvaient s'opposer au roi à ce sujet, car le roi usurpait leurs fonctions. Verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. C'est Dieu qui jugea Ozias sur place alors qu'il commettait un péché. Versets 20 et 21. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Jotham, le fils d'Ozias, gouverna le pays au nom de son père, car celui-ci passa le reste de ses jours en quarantaine, chers amis. Verset 22. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Isaïe, fils d'Amoz, le prophète. Isaïe débuta son ministère à la mort d'Ozias. Verset 23. Ozias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, « Il est lépreux. » Et Jotham, son fils, régna sa place. Un chrétien ne devrait pas appréhender la mort. Les funérailles d'Ozias furent presque heureuses. Paul dit aux croyants de Thessalonique, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Citation de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Il a dit aussi aux Corinthiens, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Les funérailles ne sont pas toujours aussi tristes qu'elles semblent. Celles d'Ozias ne furent pas tristes. Quoiqu'il avait la lèpre, Ozias fut un bon roi. Mais Dieu nous rapporte aussi son péché. Il a péché par orgueil, en s'ingérant dans le service du temple. Il y a encore des gens de nos jours qui pêchent par orgueil. Ils approchent Dieu selon des voies humaines, et non selon celles prescrites par Dieu. Dieu pourtant nous a enseigné que nous devons l'approcher selon ses termes, selon ses conditions. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Ozias a voulu approcher Dieu à sa manière, et Dieu le frappa en lui donnant la lèpre. C'était une maladie atroce, physiquement et psychologiquement. Cette maladie provoquait beaucoup de souffrance. La mort fut un soulagement pour Ozias. Malgré son péché, il fut un homme de Dieu, mais cela n'empêcha pas Dieu de le juger et le condamner pour son geste. Paul a dit aux croyants, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Ozias fut jugé sur terre pour son péché, mais il était un homme de Dieu et il se trouve au ciel pour l'éternité. Des milliers de croyants sont emprisonnés dans des corps infirmes et malades, sans aucun espoir de rétablissement. Mais, un jour, ils seront libérés. Se retrouver en présence du Seigneur Jésus est un événement merveilleux et joyeux. Il n'y a pas de raison d'être attristé à l'extrême dans un tel cas. Je ne pense pas que Jotham ait versé une larme aux funérailles de son père. Je suis certain qu'il aimait son père et qu'il savait que son père était un homme sauvé par la foi. Jotham fut aussi un bon roi. C'est le troisième d'affilée. C'est inhabituel dans le contexte. Commençons notre lecture de 2 Chroniques, chapitre 27, versets 1 et 2. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Ozias, son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Le tort des autres ne nous exempte pas d'aimer et de servir Dieu. Nous lisons une chose étrange concernant ce roi. Il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Jotham fut probablement marqué par l'expérience de son père qui fut frappé de la lèpre pour avoir pénétré dans le lieu saint afin de brûler des parfums sur l'autel. Jotham fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais il n'osa pas pénétrer dans le temple. Nous pouvons éprouver une certaine sympathie pour lui, mais il ne fut pas un bon exemple pour la nation. Alors le peuple se corrompit encore et ne se tourna pas vers Dieu. nous sommes devant un homme qui a eu une belle occasion de ramener son peuple à Dieu, mais il ne le fit pas, parce qu'il était resté marqué par une mauvaise expérience. Il se tenait loin du temple, de la maison de Dieu. Il y avait peut-être même une racine d'amertume dans le cœur de Jotham. Son père était devenu lépreux, et il ne voulut pas aller au temple. De nombreuses personnes agissent ainsi aujourd'hui. Elles se tiennent loin de l'Église à cause des préjugés. Beaucoup de gens cessent d'aller à l'Église à cause d'un incident malheureux qui leur est arrivé ou qui est arrivé à quelqu'un qu'ils aimaient. Le tort ou le péché d'une autre personne ne justifie pas que nous abandonnions la foi et notre assemblée chrétienne. Les personnes qui ont fait le mal seront jugées par Dieu. Mais celui-ci n'acceptera pas le tort fait comme excuse pour ne pas l'aimer et le servir. Un jour, je discutais de questions spirituelles avec une personne. Pour justifier son refus de venir à Dieu, il mentionna un évangéliste, un chrétien. C'était à l'époque au cours de laquelle il y eut quelques scandales retentissants. Cependant, je rappelais à cette personne que si cet homme ne suivait pas le Seigneur, cela n'enlevait rien à ma responsabilité personnelle. Je rendrai des comptes pour moi, non pour lui. De plus, je dis à cette personne que Dieu lui demanderait des comptes pour elle-même et que la conduite d'un tierce ne pouvait le justifier devant Dieu. Chacun devra rencontrer Dieu un jour pour le bien et le mal qu'il aura fait. Versets 3 et 4. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda, et des châteaux et des tours dans les bois. Jotham entreprit des travaux de construction pour renforcir le pays. Versets 5 et 6. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Ammon, et il l'emporta sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment et 10 000 d'orge, et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotham devint puissant, parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Jotham affermit le pays militairement, comme le fit son père. Versets 8 et 9. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, et Akaz, son fils, régna à sa place. Le préjugé de Jotham empêcha cet homme de devenir un grand roi et de faire de grandes choses pour Dieu. Le roi suivant fut un mauvais roi. Le royaume du Nord est sur le point d'aller en captivité, et le royaume du Sud fut affaibli énormément par le péché d'Akaz. Débutons la lecture du 28e chapitre de 2 Chroniques. Versets 1 et 2. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Akaz fut un mauvais roi. Marcher dans les voies des rois d'Israël signifie marcher dans l'idolâtrie et la méchanceté. Les rois étaient souvent comparés à David, la norme très humaine pour le service envers Dieu. Cependant, aucun n'atteint la norme de David. Nous commençons à entrevoir l'avenir sombre du royaume du Sud. Celui du Nord s'en va bientôt en captivité, défait par les Assyriens. Dieu donnera de nombreux avertissements au royaume du Sud, mais malheureusement, il ira aussi en captivité plus tard, mais à Babylone. Verset 3. Il brûla des parfums dans la vallée des fils Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ceci signifie qu'il offrait ses enfants sur des autels chauffés à une température très élevée. En fait, l'autel était une idole pour recevoir des sacrifices humains. Verset 4. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Achaz s'adonna à l'idolâtrie et y entraîna son royaume. Avez-vous noté combien souvent les fils de bons rois ne furent pas des personnes craignant Dieu? Par exemple, trois des aînés de David virèrent ou tournèrent au mal. Amnon, Absalom et Adonijah. Josaphat craignit Dieu, mais son fils fut un mauvais roi. Nous verrons bientôt deux autres rois, Ézéchias et Josias, qui furent de bons rois, mais dont leurs fils ramenèrent l'idolâtrie en Israël. Père, élevez-vous vos enfants dans la crainte de Dieu? Se pourrait-il que ces rois aient négligé d'élever leurs fils dans la crainte de Dieu à cause de leur travail et de leurs occupations? Je crois que cela se voit souvent. Des parents chrétiens négligent d'élever leurs enfants dans la crainte de Dieu. Leur carrière et leur travail passent avant les enfants. Ils ne donnent que les restes de leur temps et de leurs biens matériels à Dieu. Ensuite, ils s'étonnent que leurs enfants ne veuillent pas suivre le Seigneur. Le Seigneur était si peu important pour eux qu'ils passaient toujours en dernier. Et maintenant, ils voudraient que leurs enfants aillent à l'Église, vivent selon les valeurs morales judéo-chrétiennes. Ils demandent alors au pasteur de parler à leurs enfants. Mais je crains que souvent le mal soit plus profond. Et pourquoi les enfants écouteraient-ils un pasteur et un enseignement alors que les parents ne l'ont jamais fait sérieusement? Seule la grâce de Dieu pourra les récupérer. Prions pour notre jeunesse, prions pour nos enfants, prions pour la génération future. Mes amis, ceux d'entre vous qui êtes parents, réservez-vous du temps de qualité pour Dieu et vos enfants? Ou bien, dites-vous à vos enfants que Dieu et l'Église ne sont pas importants en les négligeant. Chers amis, voyez-vous l'importance d'être la personne que Dieu veut que vous soyez, là, dans votre foyer, dans votre maison, dans vos relations interpersonnelles, avec les vôtres, étudiant la parole de Dieu en famille? Écoutez ces textes tirés du Nouveau Testament, de l'apôtre Paul, aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » L'exhortation est donnée à qui? Au père. À encourager les enfants à suivre selon l'enseignement du Seigneur. Et on retrouve le même principe, le même enseignement donné cette fois dans Colossiens chapitre 3, versets 20 et 21. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Encore une fois, l'exhortation est donnée au père d'apporter l'enseignement adéquat aux enfants qui sont élevés dans nos foyers. Je m'adresse au père, toi qui as le rôle de papa. Vois-tu l'importance d'enseigner tes enfants selon la voie que le Seigneur leur présente, leur révèle à travers les saintes Écritures? Partage ce que tu reçois de Dieu avec les tiens, avec tes enfants, afin que eux aussi, un jour, puissent faire le bon choix. Chers amis, prochaine émission, 2 Chroniques, chapitre 28, verset 5, à chapitre 30, verset 16.
Merci beaucoup, Régent. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quel beau verset! Régent nous l'a lu au cours de l'enseignement d'aujourd'hui, alors qu'il nous mettait en garde contre l'orgueil quand on a du succès. Il nous a mentionné la fin tragique du roi Ozias à cause de l'orgueil. Et pourtant, Ozias avait connu de belles victoires. Il était devenu bien puissant, mais l'orgueil l'a fait tomber. Mes amis, Dieu connaît notre cœur. Il connaît nos motifs dans tout ce qu'on entreprend. Quand je me prépare pour une campagne d'évangélisation, ou pour une série d'émissions, ou pour amener la louange à l'Église, il m'arrive souvent que Dieu me rappelle les versets 23 et 24 du psaume 139. J'aimerais les répéter. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je ne veux surtout pas oublier que tout ce que Dieu me confie, c'est simplement son œuvre à travers moi et non mon œuvre. Si j'y allais par mes moyens, par ma propre force, ce ne serait pas long que j'échouerais dans tous mes projets. Et Dieu, dans son amour, ne me laisse pas oublier que c'est lui qui sauve, que c'est lui qui édifie, que c'est lui qui donne la victoire, que c'est lui qui remporte le succès, même s'il choisit de le faire à travers des créatures faibles comme nous. Je crois qu'on aurait tous tendance à nous enorgueillir quand Dieu se sert de nous, mais il faut constamment être conscient de qui nous sommes. On est des enfants de Dieu, des pécheurs pardonnés, non à cause de nos mérites, mais à cause des mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui connaissait notre état lamentable, qui savait qu'on ne méritait nullement de passer l'éternité dans la présence de Dieu à cause du péché, à cause de notre corruption, de notre méchanceté. Et dans son amour, Jésus a porté la peine de nos péchés en mourant sur la croix. Et avant de mourir, il a dit, « Tout est accompli. » Mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, réalises-tu que toi aussi, tu es un pécheur perdu qui ne mérite pas le ciel? N'essaye pas de te sauver toi-même en menant une bonne vie, en faisant du bien aux autres, en faisant toutes sortes de sacrifices. C'est peine perdue. Personne ne mérite d'aller au ciel et on ne sera jamais assez bon pour y aller. Mais Jésus est le seul qui soit venu sur la terre sans jamais pécher. Et il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé flageller. Il s'est laissé cracher au visage. Il s'est laissé mettre une couronne d'épines sur la tête, lui qui était digne d'une couronne royale. Et il s'est laissé crucifier par nous. C'est nous qui sommes responsables de ses souffrances et de sa mort à la croix. C'est à cause de nos péchés. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité et maintenant il est vivant. Et il te dit, à toi, à travers ma voix, en ce moment, reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce que tu reconnais comme étant péché dans ta vie. Mon ami, demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Il veut te pardonner. Il veut te sauver et il va le faire.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison.
Oui.
De nous commander ces petits livrets. Et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, GEG 6P2. À demain!
Oui! Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.